Bonjour et bienvenue à Je vais au ciné, tous les lundis à 14h. Aujourd'hui avec moi, on va avoir Mickaël.
Oh non.
Bonjour.
Bonjour Mickaël. Tu vas nous faire une... Tu vas être le premier à nous faire une
chronique. Et nous on pue ?
Oui mais deux secondes, il est pressé.
Pressé. Comme une orange.
Donc tu vas être le premier à faire
un tout petit citron. Regarde son micro.
On a Eric avec
Salut.
Nous. Qui était là la semaine dernière et qui est encore là avec nous.
C'est fou ça.
Moi je viens là pour casser des briques.
Voilà, exactement. Et on a Antoine
qui le plus beau de l'équipe.
Ouais, qui aime bien se faire remarquer et qui est notre spécialiste Star Wars.
Le dispensable.
Alors si vous savez pas pourquoi c'est le spécialiste Star Wars, il fallait écouter l'émission de la semaine dernière.
Voilà.
Et puis on va commencer par Mickaël.
Un jour tu retiendras mon nom.
Oui, je sais pas, j'ai un trou. Pourquoi j'ai un trou à ce moment-là, j'en sais rien.
Le stress, l'angoisse, le charisme.
De la page blanche, sans doute. Et j'ai toujours ma petite surprise.
Son nom vient tout droit de la petite étiquette collée sur la paroi de son aquarium.
Ictus Sapiens, 14 avril 1865.
Tu as peut-être la référence cette fois-ci.
Oui, celle-là, cette fois je l'ai.
C'est quoi ?
Tu l'as pas la référence?
Non, moi je l'ai pas.
Film de super-héros, non?
Oui. Ouais. Enfin, anti-héros plutôt.
Ant-Man, non?
Hellboy.
Ah. Mais lequel? L'ancien, le nouveau?
Le premier.
Non, l'ancien.
Ouais. Ah, l'ancien.
T'as endormi tout le monde là, ça y est, on a à peine commencé l'émission que t'as
c'est
déjà endormi tout le monde. C'est
un peu plat cette musique.
Et j'ai même pas commencé la chronique que ça déjà, il y a déjà des interférences.
Mais c'est un film poétique.
Exactement, merci Eric, et au moins il y en a un qui sait ce que c'est la poésie dans cette équipe de fans de Michael Bay. Je crois que si vous avez une once de poésie, vous avez ressenti cette ambiance qui met tout de suite dans le...
Dans le bain,
tout à fait. Ceux qui ont vu le film auront le jeu de mots. Il n'y a que des amateurs de jeux de mots autour de cette table.
Oui. Bah, toi un peu plus. Là,
une ambiance un peu ouatée à la frontière du conte merveilleux. L'homme derrière ceci est Alexandre Desplat. Il est français, cocorico. Il a 58 ans et déjà 2 Oscars en poche. L'homme n'est plus à présenter car depuis 1985, il a travaillé avec les plus grands. Jacques Audiard, Terrence Malick, Wes Anderson, David Fincher, Stephen Frears, etc. etc., etc. Cette musique est celle composée pour le film La forme de l'eau de Guillermo del Toro, connu principalement pour le célèbre labyrinthe de Pan. Après une incursion dans le blockbuster avec Pacific Rim et la romance à tendance un peu horrifique avec Crimson Peak, Del Toro revient avec un film poétique où il renoue avec ses thèmes fétiches, l'amour, les monstres et l'intolérance. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu le film. Elisa, interprétée par Sally Hawkins, est muette. Elle travaille dans un laboratoire gouvernemental tenu secret comme femme de ménage. Elle mène une existence routinière et plutôt solitaire. Et sa vie bascule à jamais lorsque sa collègue Zelda et elle découvrent une expérience encore plus secrète que les autres, une créature humanoïde en captivité, cachée dans l'un des bassins de l'établissement. Alors, si on devait résumer très grossièrement ce film, on pourrait dire que c'est une histoire d'amour sur fond d'ode à la différence. Et pour cela, Alexandre Desplat nous livre ce qui fait de mieux une musique poignante, délicate, élégante.
Vous êtes bien arrivé au troisième étage.
Oh là 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 là. Cette BO se caractérise par un rôle un peu plus en retrait des cordes. Des cordes, celles qu'on utilise pour se pendre ? Ah non, Antoine, je t'avais vu venir, toi, avec ton jeu de mots. Toi, le président d'honneur de l'amicale des jeux de mots approximatifs. Non, je parle évidemment des instruments de la famille
ah,
du
enfin
violon. Ceux-ci sont mis en retrait, comme je le disais, au profit des instruments avant, avec en tête un ensemble d'une douzaine de flûtes et même un accordéon.
C'est pas mis du poulot ?
Je pensais la même chose.
Voilà, film français, accordéon, un mille poulains, voilà. Voilà le niveau d'Antoine.
C'est triste. La musique d'Alexandre Desplat vient ancrer la nature de fable du film. Toutefois, il sait aussi s'en détacher afin de créer une distance avec l'image. En effet, une certaine violence est présente dans le cinéma de Guillermo del Toro. Une scène notamment est parlante à ce sujet. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, spoiler. Elisa et Zelda sont réquisitionnées pour faire le ménage dans la salle d'interrogatoire de la créature. Elisa alors trouve alors deux doigts humains sur le sol. Bon, on est d'accord, c'est horrible. Hein. On imaginait, vous faites tranquillement le ménage et là, vous tombez sur deux doigts. Bon, je pense que vous n'aurez pas trop envie de rire, sauf si vous êtes un psychopathe. Et pourtant, grâce à la musique, le caractère glauque de cette scène est atténué. Alexandre Desplat n'est pas le premier à utiliser une dédramatisation par la musique d'une scène plutôt glauque. Si vous voulez un bon exemple, regardez le trio infernal de Francis Giraud. Moi aussi, je peux faire des références que personne ne connaît, Antoine. La scène est la plus marquante du film montre le fameux trio infernal du titre, interprété notamment par Michel Piccoli et Romy Schneider, tuer un personnage joué par Andrea Ferrol. Ils se débarrassent du corps à l'aide d'acide sulfurique et le mettent dans une baignoire. Puis ils découpent ce qu'il reste du corps et l'enterrent dans le jardin. Alors voilà, dit comme ça, la séquence...
C'est Breaking Bad, quoi.
Mais j'allais le dire, mais bon, je vous dis, Eric, il va encore faire une réflexion.
Oui, mais bon, ce film date des années 70, donc bien avant Breaking Bad. Je vous laisse faire les conclusions qui s'imposent. C'est une séquence qui est montrée en totalité. Ce qui peut sembler insoutenable, mais avec la musique d'Ennio Morricone, car c'est lui qui a fait la musique de ce film, elle est tout à fait supportable. Je vous conseille vraiment ce film, rien que pour cette scène et l'habillage musical qu'il y a à ce moment du film, parce que c'est juste magistral. Ennio Morricone et Alexandre Desplat ont fait le choix d'habiller la scène macabre avec une musique teintée d'humour, afin de permettre aux spectateurs de garder une distance par rapport aux images. Pour revenir à la forme de l'eau, cette musique de film, combinant à la fois des arrangements de standards jazzy à de la musique originale, où l'instrumentation mêle orchestre, ensemble de flûtes, accordéons et même des sifflements, nous propose un voyage dans l'émotion, où se tutoie la noirceur et la candeur, tout cela au service d'une belle histoire d'amour.
Eh bien, merci Mickaël. Et on va enchaîner sur la musique La Javanaise de Madeleine Peyroux, qui est justement dans la BO du film.
Tout à fait.
Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon vie, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la japonaise.
Retour avec moi qui vais faire une chronique en fait.
Et maintenant la chronique de Seb.
Voilà, exactement. Je vais vous parler de la meilleure adaptation d'une œuvre de Stephen King. J'ai nommé Maximum Overdrive, sorti en 1986. Je sens que des gens dans l'assistance ne sont pas d'accord avec moi et a raison. C'est pas totalement de la faute du réalisateur, ni du scénariste, ni de l'auteur. C'est l'ensemble des trois, vu que c'est la même personne. Et oui, cette personne, c'est Stephen King lui-même, qui est aux commandes de ce film. Alors, non. pour sa défense, il n'a pas commis d'autres films après cette unique tentative de réalisation. Non, mais heureusement, parce que... voilà. Je développerai après.
Quand tu sais qu'il aimait pas le Shining de Kubrick, tu peux te dire qu'il y a...
Mais Shining de Kubrick, c'était avant.
Là. Un peu exigeant, le garçon.
Oui. Mais après, il s'est abstenu, au moins.
L'abstention, ça a du bon.
Voilà. Je vais tout de même vous faire un rapide résumé. Une comète passe près de la Terre pendant une semaine et détraque tous les appareils électriques et aussi les camions, sauf les voitures. On ne sait pas pourquoi. Ces appareils tuent les humains par tous les moyens possibles. On suit un petit groupe qui se retrouve coincé dans un relais routier avec restaurant, station-service, atelier de mécanique. On suit les démêlés de ce petit groupe et de ceux qui les rejoignent. ils subissent principalement les attaques des camions garés sur le parking. Alors ils tournent en rond les camions. Enfin, bref, c'est d'une action et d'un palpitant dingue.
C'est la véritable pagaille.
Voilà. Puis c'est dingue comme action. Enfin bref. Pour rappel, le film Christine, tiré aussi d'un roman de Stephen King sorti 3 ans plus tôt, nous parle aussi d'un véhicule pouvant s'animer seul.
Oui, mais là c'était une voiture.
Là, c'est une voiture. Voilà.
Ah ouais.
C'est pas pareil.
Elles ont changé de bord entre tout.
Oui, et puis c'est un peu plus fantastique. Là, il a essayé d'expliquer des trucs dans Maximum Overdrive. Et bon, bref, je vais y revenir après.
Rien de nouveau, ça s'appelle K2000.
Yo, c'est pas
Non, K2000, c'est une voiture intelligente technologiquement parlant.
La coccinelle.
Détail.
Voilà, coccinelle, ça se rapproche un peu plus de Christine. Voilà. Elle a une personnalité.
Elle n'est pas très gentille, la coccinelle.
Christine non plus. Je vais commencer mes critiques par citer les bons côtés. Parce qu'il y en a tellement.
Ah, il y en a !
Il y en a tellement que, bon, je commence par ça. C'est d'abord l'auteur de la nouvelle originale qui réalise, donc l'auteur ne peut qu'être satisfait. Ou en tout cas, s'en prendre qu'à lui-même. Jusque-là, il ne peut pas critiquer comme Shining, tu vois. Et c'est de sa faute, si c'est vrai. Oui, je sais, comme premier bon côté, ce n'est pas terrible. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mieux. Stephen King fait un caméo au début de ce film. Wow. Toujours pas convaincu ?
C'est un point positif, ça ?
Bah, ouais, si. Enfin, on le voit, quoi.
Ok.
Bon, la bande originale est signée...
Hitchcock, quand il le fait, c'est bien.
Oui. Là...
Critique pas, tu l'as pas vu.
Il est là. Il est là.
Je suis pute.
Non,
ah,
c'est pas très bon, mais il est là. Ouais. La bande originale est signée AC/DC. Vous ne pouvez pas dire que ça ne claque pas, quand même.
Ok.
Bon, j'ai pas plus. Hein. Vraiment, là, j'ai tout donné. Mais...
Comme Maître Gims.
C'est normal. Bon, si j'ai tout donné. Si ce n'est toujours pas, vous n'êtes toujours pas convaincu, c'est normal. Vous avez vu le film. Vous avez entendu parler. Vous ne l'avez pas encore vu ? Ah, asseyez-vous confortablement. Et écoutez-moi, ce sera pénible, mais moins que si vous avez décidé de visionner le film.
Ouais, ça va durer 5 minutes, pas 2 heures.
Ouais, voilà, à peu près. Sa première erreur, c'est de réaliser son premier film seul, sans réalisateur expérimenté avec lui. C'est malheureusement l'idée et le vœu du producteur Dino De Laurentiis, qui avait acheté les droits, bref.
Le producteur, l'un des producteurs les plus mégalos de l'histoire d'Hollywood. ça mord du truc, déjà.
Je le rappelle, c'est le seul film qu'il a réalisé. Donc son premier est évidemment unique, qu'il n'a jamais retenté l'expérience après. Enfin, bref, voilà.
Le premier sera le dernier.
Voilà, et puis heureusement. Autre problème, les acteurs sont aux fraises. Mais vraiment, les personnages aussi, mais tout est aux fraises.
Complètement, ils prennent leur panier, ils vont cueillir.
Ouais, complètement déconnectés du sujet, voire même inconscients. Les acteurs surjouent, sont caricaturaux, voire même complètement inintéressants. Le réalisateur et le scénario sont tellement prévisibles que tu peux dessiner les prochaines cases du storyboard dès le début d'une scène d'action. Les scènes sont gore dès le début du film, sans raison réelle, au point qu'elles sont presque risibles. Il y a vraiment aucun intérêt. Il y a un gamin qui passe sous un rouleau compresseur, il meurt. Enfin bon, bref, c'est gore juste pour être gore.
Ah mince, je pensais qu'il allait survivre.
Non, il y a plein de morts. On se met où il les tue pour les tuer. Bon bref. Avant de faire cette chronique, j'ai vu le film et j'ai piqué du nez.
Heureusement.
Mais j'ai piqué du nez. C'était prévisible, tellement c'était prévisible. J'ai dû faire des pauses pour ne pas m'endormir. Vraiment, c'était une horreur. Un film comme celui-là peut difficilement vous tenir en haleine s'il n'y a aucun suspense ni réel intérêt. Voilà, c'est comme tous les films où il n'y a aucun suspense et aucun intérêt. Surtout pour globalement un thriller, on doit se demander comment ça se finit. Bon, ça se finit plutôt bien comme les happy end de l'époque. Autre souci, et pas des moindres, il intègre les appareils électriques alors que dans sa nouvelle, seuls les véhicules sont animés. Donc, bon, hein, pour un mec qui a écrit une nouvelle et puis qui la réalise, changer des trucs, c'est pas terrible. À la demande des producteurs, il nous donne aussi plus d'informations que dans ses écrits et ça rend le film moins crédible. Alors que je pense que l'idée était juste tout autre. Essayer de donner du sens à un événement qui n'en a pas forcément besoin n'était à l'évidence pas une bonne idée. Il n'y a pas eu que les producteurs qui n'ont pas facilité les choses. Le directeur de la photographie, Armando Nannuzzi, ne parle pas un mot anglais et devait donc parler à travers un traducteur pour communiquer avec le réalisateur. Sans compter que ce directeur de la photographie se blesse pendant le tournage et intente un procès au réalisateur qui s'arrange à l'amiable avec lui. Vraiment, ça part très très mal, ce film. Avant même qu'il ait fini de le réaliser, ça part mal. Ma dernière critique est plus un avis personnel. Mais je vous le donne quand même. L'une des premières scènes se passe dans un pont basculant à double tablier. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, cherchez sur internet. Qui se lève seul et qui crée un énorme chaos. C'est une scène dispensable, mais qui, d'un certain côté, montre un contexte. Je pense même que sans cette scène, le film n'aurait ni été moins bon, ni meilleur. Enfin, je veux dire, il aurait juste été plus court. Et ça aurait peut-être permis de mettre des meilleurs moyens sur le reste du film, parce que le budget est quand même relativement conséquent. Mais il y a un petit point que je n'ai pas encore abordé, mais à l'époque, Stephen King était sous l'effet de l'alcool et de la cocaïne, ce qui n'aide encore moins, vraiment, pour ce film. Ça aurait pu... Voilà, sous alcool et cocaïne, il y en avait plein, mais...
C'est peut-être pour ça qu'il l'a sorti, il croyait que c'était génial sous cocaïne.
Il avait pourtant bien préparé son storyboard. Il avait fait un super storyboard, tout bien. Mais sur le tournage, il ne sait pas ce qu'il faisait. Et puis personne ne l'a arrêté dans son délire, donc il a continué. Et il faut noter aussi que le film a été nommé 2 fois aux Razzie Awards en 1987. En tant que pire acteur pour Emilio Estevez et pire réalisateur pour Stephen King. Alors, pour la défense du film, Shining, 3 ans plus tôt, a eu les mêmes nominations au Rising.
Tu fais bien, j'allais le dire. Stanley Kubrick, pire réalisateur. Ouais.
Bien sûr. Oui, ça a existé, monsieur.
Oui, tout à fait.
3 ans plus tôt, Shining y a eu droit. Donc, et c'est aussi une adaptation de Stephen King. Bon, pas le même réalisateur, pas le même acteur principal, mais quand même, la différence entre les deux films est notable, vraiment. Vraiment, vraiment.
On fait confiance.
On sent qu'il y a du budget avec ces 9 millions de dollars quand même. Pour l'époque, c'était pas mal.
En coke et en alcool.
Pas que en coke et en alcool. En effets spéciaux et en trucs. Bon. Mais même avec moins de budget, le film n'aurait peut-être pas été meilleur. La preuve, le téléfilm canadien Trucks, les camions de l'enfer, sorti en 1997, qui a même réussi à arriver sur le petit écran français 7 ans plus tard. Je ne sais pas s'il est vraiment meilleur, mais les critiques que j'ai pu en lire ne sont pas très bonnes non plus. De mon humble avis, c'est peut-être la nouvelle de départ qui n'est pas la plus intéressante de Stephen King qui a été portée à l'écran, mais elle mérite sans doute mieux que ça. Il y avait peut-être mieux à prendre, il y en a eu des mieux en plus. Si je devais vous conseiller quelques films adaptés des œuvres de Stephen King, je pourrais commencer par Christine, dont j'ai parlé légèrement avant. Il faut noter que le film et le roman ont été créés en même temps et sont sortis la même année, ce qui est très rare pour le faire remarquer quand même. Parce que d'habitude, quand on fait une adaptation d'un roman, il est écrit avant, pas en même temps. Dans le désordre, je peux vous citer La Chambre 1408, Misery, Shining, Les Évadés, Dead Zone, ou encore même La Ligne Verte, qui sont des très bonnes adaptations des œuvres de Stephen King. Et je vais vous laisser là-dessus, sur ces bonnes paroles, et sur ces bons films à regarder. Et puis peut-être qu'un jour on en parlera dans l'émission de ces bons films, parce qu'il y en a même qui ont eu, pour Misery, il y a même eu l'Oscar de la meilleure actrice pour Misery quand même. Ah oui, quand même. Et puis on va s'écouter un petit AC/DC qui a été fait spécialement pour le film Who Made Who, qu'on va écouter maintenant. Donc on est de retour et Antoine, tu voulais nous parler d'un film.
On va rester dans la voiture, effectivement. Ah.
Mais on était dans les camions avant.
Ouais. Allez, en route, Simone.
Donc depuis quelques semaines est sorti au cinéma. Donc le film s'appelle Le Mans 66. Donc c'est un film de James Mangold avec le très bon Christian Bale et le convaincant Matt Damon. Donc l'histoire, c'est
surtout comment... vaincant.
Ah.
Surtout vaincant, Matt Damon.
Tu sais, des fois, tes propos sont souvent au-dessus des autres, mais là, non. Donc, le film raconte comment Ford, pour redorer son image, va monter une équipe de sport automobile, pour gagner les 24 heures du Mans et voler la vedette à Ferrari qui les remporte chaque année. Donc, Ford va donner les rênes de son écurie à Carroll Shelby, donc qui est interprété par Matt Damon, qui est un ancien coureur automobile. Et lui, il va essayer de confier les clés de la Ford GT40, donc pour les connaisseurs, à son pilote et ami, donc Ken Miles, interprété par Christian Bale. Mais une lutte va se créer au sein de Ford, entre la nouvelle écurie et les bureaucrates qui dirigent la compagnie. Alors, je voulais faire un petit point avant sur le nom du film, parce qu'en France, il s'appelle Le Mans 66. En VO, c'est Ford contre Ferrari. Et je trouve que le film aurait été mieux, enfin plus compréhensible pour que le spectateur, avant même de rentrer en salle, comprenne les enjeux, qui s'appelle Ford contre Ford, en fait, parce que c'est surtout ça le film. Je voulais parler aussi du réalisateur James Mangold. C'est pas un réalisateur star. Enfin, je pense que quand je vois vos têtes, vous ne pas le connaître. Par contre, on connaît souvent ses films. Si. Donc il y a Walk the Line. Son premier film, je crois, était Copland. Avec Stallone, et il a fait, je trouve, un très bon film de super-héros, en fait, dont j'entends pas souvent citer, qui s'appelle Logan. Je sais pas si vous l'aviez vu, celui-là.
Ouais.
Et franchement, moi j'avais beaucoup aimé. Donc on a d'un côté un super réalisateur et de l'autre côté deux super acteurs, donc on a tous les ingrédients pour faire un super film, et le film est une vraie tuerie, en fait. Alors pareil, je voulais préciser que le film s'adresse pas spécialement aux fans de voitures. On peut ne pas aimer la voiture ou ne pas aimer le sport automobile et s'intéresser au film. Mais à ceux qui aiment les aventures humaines, le film m'a fait penser un peu à First Man. Je trouvais que la seule chose qui était réussie dans First Man, c'était quand ils montaient dans les capsules, tu sentais que c'était de la tôle et qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir, en fait. Et là, quand Christian Bale monte dans la voiture... Bah, les voitures qui courent le 24 heures du Mans, en fait, c'est des prototypes. À n'importe quel moment, il y a une pièce qui peut lâcher, et à 300 km/h, ça pardonne pas. Et je trouve que le film fait bien ressentir cette peur, en fait, cette tension qu'il y a quand il court. Mais moi, là où j'ai trouvé ça aussi intéressant dans le film, c'est quand les parties avec Matt Damon, quand il doit s'expliquer auprès de la direction de Ford. Eh ben, c'est pareil, t'as les dialogues, c'est super bien filmé, c'est super percutant l'écriture. Et on est tenu en haleine autant durant la course, durant les courses, que durant les scènes de dialogue. Et je trouve que ça, c'est suffisamment bien fait pour être souligné, parce que c'est rare souvent. Voilà, donc moi je conseille ce film, parce que le film dure 2h30 et j'ai pas vu le temps passer. Enfin, c'est franchement bien fait.
Antoine, est-ce qu'on peut dire que ton film, il est Ford de café ?
Est-ce que ça se rapproche un peu du film Rush ?
Ouais, alors moi je me souviens, Rush, on avait. Moi je l'avais vu avec des. Je l'avais pas vu, en fait, c'est un copain qui me l'avait conseillé. Et pareil, je m'étais dit, ah, les films de bagnole, en plus là c'est vraiment. C'était Niki Lauda et je sais plus qui c'est l'autre.
Ouais, mais c'est surtout. Ça parle plus de Niki Lauda.
Mais c'est ça, en fait, c'est un décor, c'est un prétexte, la voiture. Et j'avais pris une claque en regardant Rush, et c'est vrai qu'en allant voir ce film-là, je me dis, tiens, ça se trouve pareil, je vais me prendre une claque. Alors, si ça se rapproche, je ne sais plus, je l'ai vu il y a longtemps, Rush, mais franchement, j'ai été aussi captivé par le film par Rush que par Le Mans 66. Ouais, non, c'est vraiment super bien, et en plus, moi, ce film, je l'ai découvert le jour de sa sortie, en fait. Enfin, j'avais pas vu de bande-annonce, j'avais pas vu de... Ouais, j'avais rien vu dessus, donc c'est vraiment la surprise
complète.
Ouais, complète. Donc c'est vrai que moi j'aime bien ça, en fait, où ils t'ont pas vendu le produit 15 ans avant sa sortie.
Bah, le problème de la bande annonce à l'heure actuelle, c'est que parle de Ford qui va combattre Ferrari et essayer de détrôner. C'est à l'heure actuelle ce qu'on entend.
Ouais, mais le film, c'est pas ça en fait. C'est vraiment, t'as une scène qui se passe en Italie et ouais, enfin, Ford passe vraiment pour des crétins en fait. C'est, non, mais c'est super bien fait. Et ouais, non, franchement, c'est un film à voir. Alors en plus, je le conseillerais, je crois qu'il est au Lobis là, de le voir en VO parce qu'il y a du français, il y a de l'anglais, il y a de l'italien. La VF, elle marche, franchement. Nous, on l'a vu en VF. Les passages en italien sont pas ridicules. En plus, il y a certains passages qu'ils ont pas doublés en français, en fait. Donc, il y a vraiment un interprète qui traduit. Bon, les passages en France, à un moment, on a vu une ou deux scènes. On s'est dit, bon, ça doit être en France parce que c'est le lieu géographique où ils sont.
Bah oui, Le Mans, c'est un peu.
Ouais,
en France,
c'est ça. Bon, tu vois pas grand-chose. Hein. Il y a deux scènes. La plupart du film se passe en Californie. Mais non, franchement, c'est vraiment à voir. Enfin, c'est un biopic, je crois qu'on peut dire ça. Enfin, un bon biopic.
Bah, c'est pas vraiment un biopic, c'est plus un film d'action.
Non, parce que ça existait en fait. Hein, c'est vraiment.
Mais tu prends Rush, c'est pas vraiment un biopic non plus.
Ouais, c'est ça relate de faits qui ont.
Des faits réels. Mika, est-ce que t'as un film à nous parler?
Ouais. Alors, je vais pas me faire des amis autour de cette table en parlant de ce film, mais c'est pas grave. Il faut parler de tout. Parce que t'es devant moi.
D'accord, ok.
Je vais vous parler de Toy Story 4.
Alors, très rapidement, alors. Hein,
Très rapidement, parce que oui, effectivement, ça va être plutôt rapide. Donc, Toy Story 4, pardon, de Josh Cooley, qui est sorti, du coup, en Blu-ray, VOD et tout ce que vous voulez. Bon, on retrouve de nombreux doubleurs connus. Richard Darbois, qu'on ne présente plus.
Le fameux.
Jamel, qui collectionne les doubleurs.
Tu présentes plus.
Les rôles de doubleurs. Il y a même Audrey Fleurot. Etc. Alors.
Il y a ceux des précédents opus, je suppose. Enfin, les principaux personnages des précédents opus.
Oui, mais les voix françaises ne sont pas forcément les mêmes.
Alors, pour répondre à la question d'Antoine, Richard Darbois, il a beaucoup fait de doublage français pour les dessins animés Disney, entre autres.
Oui.
D'accord.
C'est quelqu'un de très, très cool.
Donc, Buzz l'éclair dans Toy Story, le génie de la lampe dans
D'accord.
Aladdin.
D'accord. Okay.
La bande-annonce de Philibert.
Un grand homme.
Ah bah oui, alors ça y est, vous m'avez convaincu.
Alors donc on retrouve toute l'équipe des jouets pour un quatrième opus et vraisemblablement pour l'instant en tout cas le dernier, mais bon, on sait jamais.
On se pose un peu la question
jamais. Des fois on se pose la question, mais en tout cas ça pourrait faire office de fin. Et franchement, ce quatrième opus est excellent. La franchise arrive quand même à se renouveler au bout du quatrième film sans être redondant, sans être pénible. C'est drôle, c'est rythmé, c'est même émouvant. Alors que je suis pas un grand suiveur de la saga, je suis pas un grand fan non plus de la saga Toy Story. Franchement,
je vais poser une question con, mais t'as vu les trois autres, non?
Ouais.
Ouais, d'accord.
Donc je disais, oui, il est émouvant sur certains passages avec les jouets qui, ces jouets qui en fait leur plus grande peur c'est de devenir obsolète et du coup de ne plus amuser leurs enfants propriétaires. C'est assez bien vu et c'est assez touchant la manière dont c'est fait. Ça mêle les nouveaux personnages. Alors il y a un nouveau personnage qui s'appelle Fourchette et sur lequel tourne autour du film. Et avec le nom, vous savez tout de suite de quoi je parle. En fait, c'est un jouet qui ne veut pas être joué.
D'accord.
Parce que Fourchette, vous voyez.
C'est une fourchette, oui.
Exactement. La retrouvaille avec les anciens. La bergère dans les premiers films qui jouait un rôle secondaire, et on va dire franchement de potiche, là, est transformée en guerrière badass. Voilà, c'est assez drôle. Donc clairement, c'est un film, c'est un très bon divertissement à voir en famille pour tous les jeunes de 6 ans à 116 ans. Ça marche aussi.
Ah tiens, petite question, parce que je ne sais pas si tu es au courant. Il y a PETA qui avait lancé une pétition pour retirer l'accessoire de la bergère justement dans le Toy Story 4 parce que c'est un accessoire qui sert à maltraiter les moutons. Est-ce que tu sais si elle l'a encore?
Si elle est devenue une guerrière, elle peut-être plus.
Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle l'ait, parce que du coup elle n'a pas la même tenue que dans les précédents films, quoi. Vraiment, ils ont vraiment réécrit le personnage à la sauce post-MeToo.
Bah, les bergers, pour travailler, des fois ils ont besoin d'attraper les moutons par le cou avec un accessoire ouais. dont la forme finit un peu comme le manche d'une canne, si tu veux. Ouais. Et ils attrapent par le cou, et en général, ce n'est pas dans l'intérêt direct de l'animal. Et, donc, PETA avait fait une signature, une pétition pour retirer cet accessoire du film.
C'est bien d'avoir des combats.
Oui. Après, après, ils pourront toujours le faire pour Disney+, tu vois.
Ouais, la version Under Director's Cut, avec l'accessoire.
Non censuré.
Non, parce que Disney+, là, ils parlent de censurer certains films, retirer des scènes. Et,
ouais, c'est Disney.
Voilà. Enfin, bref. Bon, on va terminer l'émission là-dessus, puis on va se retrouver la semaine prochaine. Même jour, même heure.
Même jour, même heure.
Voilà. Avec. On verra avec qui.
Suspense.
Ouais. Suspense. On ne sait pas encore. Eh ben, bon après-midi à vous tous. Et puis à la semaine prochaine.
Au revoir. Au revoir.